de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, voici le journal d'aujourd'hui. On commence par le titre « L'Indonésie encouragera le développement des infrastructures régionales ». Le président discute du développement des infrastructures lors du sommet de l'ASEAN. Officiellement tenu, Alpac Indonesia 2019, suivi de 885 entreprises. Jambi ne veut pas rater le moment du tour de Singkarak ou TDS 2019. À la réunion de la communauté économique de l'ASEAN, l'Indonésie prépare 5 secteurs manufacturiers excellents à Hanovre. Chers auditeurs, voici le journal complet. Le président Joko Widodo participera à une série de réunions lors du 35e sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est au sommet de l'ASEAN à Bangkok en Thaïlande du 2 au 4 novembre 2019. Lors de la réunion, l'Indonésie encouragera le développement d'infrastructures dans la région pour stimuler l'économie des pays membres de l'ASEAN. Lors de son discours devant la presse au Palais Merdeka, vendredi dernier à Jakarta, le président Joko Widodo a déclaré qu'à l'occasion du sommet de la NASE ou l'ASEAN, il souhaitait inviter tous les pays membres de la NASE ou de l'ASEAN à développer des infrastructures liées au concept Indo-Pacifique. Il a déclaré que le développement des infrastructures dans la région de l'ASEAN aurait un impact économique entre les pays de la région. Ceci est lié à la facilité des relations entre les pays et au coût de logistique bon marché dans la région. Avec l'augmentation des infrastructures, Jokowi espère également faciliter l'échange de marchandises entre les pays de l'ASEAN. Et nous espérons également qu'avec la bonne connectivité, la compétitivité, des produits fabriqués par les pays de l'ASEAN deviendront plus compétitifs. Lors de la réunion des chefs d'État de l'ASEAN, le président Joko Widodo devrait participer à la réunion plénière de l'ASEAN et à plusieurs réunions de haut niveau entre l'ASEAN et les pays partenaires. En outre, le président Joko Widodo doit également tenir un certain nombre de réunions bilatérales avec des pays amis tels que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Inde et le Japon. Il doit également rencontrer le secrétaire général de l'Organisation Nations Unies, Antonio Guterres, en mars du 35e sommet de l'ASEAN à Bangkok, en Thaïlande. Le président Joko Widodo prévoit de discuter du développement des infrastructures lors du 35e sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est au sommet de l'ASEAN à Bangkok, Thaïlande du 2 au 4 novembre 2019. En Thaïlande, mardi, il invitera tous les membres de l'ASEAN à construire conjointement l'infrastructure liée au concept Indo-Pacifique. C'est ce qu'a déclaré le président Jokowi lors d'une discussion hebdomadaire avec des reporters présidentiels au Palais Merdeka à Jakarta vendredi dernier. Selon Antara, la réunion plénière du sommet de l'ASEAN samedi dernier est participée par les dirigeants et chefs d'État ou de gouvernement des pays membres de l'ASEAN. Dimanche dernier, le président Jokowi assistera à la cérémonie d'ouverture du 35e sommet de l'ASEAN et à plusieurs réunions de haut niveau entre les pays membres de l'ASEAN et leurs partenaires, entre autres le sommet ASEAN-Chine, le sommet ASEAN-Inde et le sommet de l'ASEAN, l'Organisation Nations Unies. L'exposition technologique OPEC Indonesia 2019 a été officiellement inaugurée par le directeur général des industries chimiques, pharmaceutiques et textiles du ministère de l'Industrie, Muhammad Khayyam, à J-Expo Kemayoran, Jakarta, mercredi dernier. OPEC 2019 est une exposition sur les technologies de traitement ainsi que sur les emballages d'aliments et de boissons. Le directeur général de PT Krista Media Pratama, Daud Desalim, lors de la cérémonie d'ouverture d'OPEC Indonesia 2019, a déclaré que l'exposition qui s'est tenue du 30 octobre au 2 novembre a rassemblé 885 entreprises nationales et internationales. Le président de l'exposition Krista, Daud Darmasalim, a déclaré récemment, lors d'une conférence de presse à J-Expo à Kemayoran, Jakarta, que la distribution visait à améliorer les produits nationaux grâce à un support technologique, dont la technologie de l'emballage. Certaines des entreprises sont actives dans les technologies de transformation et d'emballage des aliments et boissons, les biscuits, les produits pharmaceutiques, les médicaments à base de plantes, les cosmétiques, l'agriculture, l'électronique, la réfrigération et l'industrie. Daud Desalim espère que dans cette exposition, les acteurs de l'industrie des expositions pourront obtenir des éclaircissements des consommateurs et de nouvelles technologies pour améliorer la qualité et la quantité de la production. Le gouvernement provincial de Jambi ne voulait pas rater le moment de la cure du tour international de Singkarak 2019, considérant que cette année est la première à être directement impliquée dans le championnat de cure de vélo. Le chef du bureau de relations publiques et du protocole du secrétaire régional de la province de Jambi, Johan Shah à Jambi, a déclaré que deux régions de Jambi qui seront dépassées par le prestigieux championnat de cure de vélo du pays sont la 7e étape dans la région de Kerinci vendredi dernier et la 8e étape dans la ville de Sungai Penuh samedi dernier. La cure divisée en 9 étapes a débuté à Pariaman, Sumatra de l'Ouest, et le chef de l'Office de la culture et du tourisme de la province de Jambi, Ujang Haryadi, a expliqué que 24 pays se sont déjà inscrits pour le programme de tour international de Singkarak 2019. Lors de la réunion du Conseil de la communauté économique de l'ASEAN, l'Indonésie a soulevé plusieurs questions importantes, notamment l'économie numérique et la révolution industrielle 4.0. Lors de la réunion qui comprenait une série du 35e sommet de l'ASEAN, la délégation indonésienne était dirigée par le ministre de la Coordination de l'économie, Airlangga Hartarto, accompagné du ministre du Commerce, Agus Suparmanto. L'Indonésie propose que les questions sectorielles de nature très large et intersectorielles puissent être traités par les institutions sectorielles s'occupant de l'industrie dans le cadre du Conseil de la CEA. Airlangga, après une réunion à Bangkok, en Thaïlande, a déclaré jeudi que l'Indonésie avait demandé l'ajout d'un secteur et que la nature intersectorielle de l'industrie ne s'était pas encore impliquée, car cela faisait partie de la mise en œuvre de la feuille de route sur l'industrie 4.0. Le ministre coordinateur des affaires économiques de l'Indonésie, Airlangga Hartarto, a déclaré que l'Indonésie se concentrerait sur les investissements, les exportations et la possibilité de promouvoir l'huile de palme lors du salon Hannover Messe en avril 2020 en Allemagne. Après avoir pris part à une réunion de coordination à Jakarta mercredi, le ministre Airlangga Hartarto a déclaré que l'Indonésie présenterait 5 de ses secteurs manufacturiers excellents lors du salon. Les cinq secteurs comprennent l'automobile, l'électronique, les aliments et les boissons, la chimie, le textile et les produits textiles. Le ministre a déclaré que jusqu'à présent, 100 entreprises nationales participeraient à cet événement annuel. L'Indonésie est le premier pays de l'ASEAN à devenir le partenaire officiel de l'événement à Auvers-Metz. Voilà le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à tous, voici les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Lombok, Nusa Tenggara Ouest. En total, de 2500 santri, soit les élèves des écoles coraniques, à Lombok, Nusa Tenggara Ouest, a fait écho au mouvement sans ordures commémorant la journée nationale du santri 2019. Le carnaval des élèves des écoles coraniques a fait ses débuts au champ du centre islamique Hubul Watan à la ville Mataram, puis a longé la rue Langko envers la rue Pendidikan sur une distance de 2 km. Les élèves ont apporté des banderoles telles que « Sauver ma terre des ordures »,« Vrais santri utilisent les ordures » ou d'autres écrits tels que « Un environnement sain, une âme saine » et d'autres. Ensuite, l'info de Bandar Lampung, Lampung. Le Conseil régional national de l'artisanat de Lampung a organisé un festival de batik mercredi dernier à Bandar Lampung. La présidente du Conseil national de l'artisanat de la province Lampung, Riana Sari Arinal, a déclaré que ce festival du batik de Lampung avait pour but de présenter différents types de batik typiques des régions ou villes, dont le tissu de batik sembagi. Le motif de batik typique de Lampung, sembagi, est le premier motif breveté du batik Lampung, dont les principales caractéristiques sont les rangées de fleurs et les fleurs de café le long du tissu. La dernière info est venue de Jayapura, Papua. Des chercheurs du Centre d'archéologie de la Papouasie à la colline Yomoko, village d'Ondai, district Waibu, région Jayapura en Papouasie, ont pu trouver des reliques mégalithiques. Un chercheur du Centre archéologique de Papouasie, Hari Suroto, dans la ville Jayapura, a déclaré mercredi que l'exploration du Centre archéologique de Papouasie sur la colline Yomoko S avait permis de trouver une plaque de pierre au sommet de la colline Yomoko. De plus, un menhir a également été trouvé. Pas loin du menhir se trouve également une route de pierre qui s'étend du pied de la colline à la colline. Cette route de pierre de la préhistoire sert de route pour faciliter l'ascension de la colline. L'exploration du centre archéologique de Papouasie dans toutes les parties de la colline a trouvé des artefacts plus décoffaques dans les collines à l'est, alors que les collines au sud et à l'ouest en trouvaient moins. Cela montre que les établissements humains préhistoriques à cette époque se situaient plus à l'est de la colline et que, d'après les résultats des levées topographiques et des fouilles superficielles, la chronologie d'occupation connue du site Yomoko est néolithique et mégalithique. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 2 novembre. Le 2 novembre 1949, l'Indonésie et les Pays-Bas signent l'accord de la table ronde à La Haye. La conférence de la table ronde était une réunion tenue à La Haye, aux Pays-Bas, du 23 août au 2 novembre 1949 entre les représentants de la République d'Indonésie, des Pays-Bas et du BFO, Bisschen Koms Voor Federal Overleg, représentant divers pays. La conférence s'est terminée sur la volonté des Pays-Bas de céder leur souveraineté à la République unie de l'Indonésie. La conférence a été officiellement clôturée au Parlement néerlandais le 2 novembre 1949. La souveraineté a été transférée à la République unie d'Indonésie le 27 décembre 1949. La date de la renonciation à la souveraineté par les Néerlandais était également la date reconnue par les Pays-Bas pour l'indépendance de l'Indonésie. Ce n'est que 60 ans plus tard, le 15 août 2005, le gouvernement néerlandais a officiellement reconnu que l'indépendance de facto de l'Indonésie avait commencé le 17 août 1945. Le 2 novembre 1963, le premier président du Sud-Vietnam, Ngo Dinh Diem, a été tué lors d'un coup d'état militaire. Le premier président du Sud-Vietnam, Ngo Dinh Diem, a été au pouvoir de 1955 à 1963. Le gouvernement Diem était autoritaire et népotiste. En tant que membre de la minorité catholique vietnamienne, les efforts de Diem pour développer des politiques pro-catholiques ont suscité la colère des bouddhistes vietnamiens. La police d'État est souvent accusée d'avoir attaqué des bouddhistes qui sont la religion majoritaire du pays. Diem est également très anticommuniste. Tous les jours, des personnes soupçonnées d'être communistes étaient torturées et assassinées. Les activistes bouddhistes ont organisé des manifestations de masse et même l'auto-torture qui ont abouti à plusieurs tentatives de coup d'État. L'armée, sous la direction du général Duong Van Minh et de ses complices, a renversé le gouvernement et exécuté le président Diem et son frère cadet, Ngo Dinh Nu, le 2 novembre 1963. Le 2 novembre 1964, le roi d'Arabie Saoudite a été éliminé par un coup de famille et a été remplacé par son demi-frère Faisal. Saoud ibn Abdul Al-Aziz Al-Saud, qui est né le 12 janvier 1902, était le roi d'Arabie Saoudite de 1953 au 2 novembre 1964. Il était le fils aîné du roi Ibn Saud. Pendant son règne, de nombreux bureaux du gouvernement ont été créés, en plus de la création de l'université de roi Saoud Ariad. Tout au long de son règne, les membres de sa propre famille ont exprimé beaucoup d'insatisfaction. Sa propre famille s'est battue pour le pouvoir en 1964 avec le soutien d'un groupe d'érudits. Bien que Muhammad bin Abdul Aziz Al-Saud soit l'héritier le plus approprié, il hésita à l'accepter et soutint plutôt la nomination de sa demi-frère Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud comme roi le 2 novembre 1964. Le roi Saoud se rendit ensuite à Genève, en Suisse, après avoir été chassé de l'Arabie Saoudite. Il est décédé à Athènes, en Grèce, en 1969, à l'âge de 67 ans. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
sekali saja pelukku, tiada yang tersembunyi.
Tak perlu mengingkari
rasa sakitmu, rasa sakitku. Tiada lagi alasan, inilah kejujuran. Pedih adanya, namun ini jawabnya. Lepaskan ku segenap jiwamu, tanpa harus ku berdusta.
C'était la chanson intitulée « Peluk » chantée par Dewi Lestari. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Et voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en pour titre, le gouvernement transformera la liste négative d'investissement en liste positive d'investissement. Le gouvernement a modifié la politique d'investissement en laissant la liste négative d'investissement en liste positive d'investissement pour attirer le maximum d'investissement en Indonésie. Cela a été annoncé par la ministre de la Coordination des Affaires économiques, Erlangga Hartarto, à l'issue d'une réunion restreinte avec le programme de présentation des programmes et activités dans le domaine économique au palais présidentiel à Jakarta, mercredi. Erlangga a ajouté qu'il avait informé le président de son plan. Erlangga a déclaré que par rapport aux autres pays, l'Indonésie comptait actuellement 21 secteurs nucléaire comme une liste d'investissements négatifs et que 495 secteurs pouvaient être entrés par les investisseurs avec certaines exigences. La liste négative d'investissement signifie que les secteurs de la liste ne peuvent pas être entrés par des investissements étrangers. Erlanger a expliqué lors de la réunion qu'il proposait un certain nombre de programmes et d'activités, notamment le renforcement des petites et moyennes entreprises via le crédit aux entreprises populaires, le développement des infrastructures liées aux zones économiques spéciales, le développement de la région de Java centrale et ceux liés à la déréglementation, à savoir la loi Omnibus. Erlanger a ajouté, le président a ordonné que la loi Omnibus reçoive le titre du programme Cipta Kerja, soit le programme de la création de travail. Le gouvernement a refusé 71 lois et réglementations qui ont perturbé les investissements. Selon Erlanger, l'Indonésie a le plus de restrictions à l'investissement. Avec le passage à une ligne positive d'investissement, le gouvernement sera basé sur une industrie ou un investissement prioritaire. Des grappes industrielles et des investissements prioritaires seront réalisés, à savoir les grappes de haute technologie, les grappes à forte intensité de capital, les grappes à forte intensité de main-d'œuvre et les grappes de la nouvelle économie ou de l'économie numérique. Les secteurs fermés ou limités aux investissements étrangers ne sont que ceux strictement interdits par les conventions internationales. Par exemple, les industries qui peuvent être converties en armes chimiques, les industries liées aux jeux et les industries alcalines de corail à base de mercure. Selon Erlanger, avec un changement à une liste positive d'investissement, un système de services intégrés de licence gouvernementale sera changé d'un système basé sur les permis à un système basé sur les risques. Avec ce système, le service est basé sur des normes établies par des institutions professionnelles certifiées. Cher ami, c'était mon Indonésie.
Thank you.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
C'était la deuxième chanson intitulée « Dua Si Jolie » ou en français « Du Tour Terreau » chantée par Dewa. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel en produisant sur la baie Ekas à Lombok, Nusa Tenggara Ouest. La région touristique de la baie Ekas est située à la pointe sud de l'île Lombok, dans le village Pemongkong, dans le sous-district Jeruwaru, en région Lombok-Est. La région de la baie Ekas fait également partie des zones côtières sous la forme d'une baie, en plus d'être une plage de sable blanc avec de petites vagues, cette plage est aussi un village de pêcheurs. Ici, les algues, les crevettes et le homard sont également cultivés. Par conséquent, la baie Ekas est également très appropriée comme lieu de pêche. La baie Ekas a également la beauté sous-marine en champ terrestre qui convient aux activités de plongée en apnée et de plongée. Malheureusement, pendant la saison des pluies, les eaux de la baie Ekas deviennent troubles à cause de nombreuses rivières qui s'y jettent. Les hautes vagues rendent le surfeur intéressé par le défi de surfer sur la baie. Les vagues sur la plage Ekas conviennent à différents niveaux de surfeurs. La baie Ekas a deux meilleurs spots, à savoir en dehors d'Ekas et à l'intérieur d'Ekas. En dehors d'Ekas a des vagues aussi hautes que 5 à 10 pieds. Les vagues ici tombent dures, puissantes et ont une grande surface, alors que l'emplacement de l'intérieur d'Ekas est plus profond dans la baie. Les vagues forment ici un mur de pic agréable. Au bon moment, il peut s'agir de longues vagues atteignant des hauteurs allant jusqu'à 12 pieds. Si vous êtes cité encore à choisir une destination touristique de plage sur l'île Lombok, faites la baie Ekas votre première destination. Ici, elle est très appropriée pour la plongée en apnée, la natation et les activités de pêche. Mais vous devez apporter votre propre équipement de pêche et de plongée en apnée, car il n'y a pas de service de location d'équipement ici. La distance de la baie Ekas est à environ 75 km au sud-est de la ville Mataram. Il est conseillé aux visiteurs d'utiliser des véhicules à moteur, car les transports en commun menant à la baie Ekas sont encore très rares, comme il n'y a pas de guichet automatique et de banque sur la plage Ekas. Il est conseillé aux visiteurs d'apporter suffisamment d'argent. Si vous souhaitez explorer la baie Ekas, vous devez apporter votre propre nourriture et vos boissons, car ici, on trouve très rarement des stands ou des magasins. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie. Au revoir.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Diane Efra intitulée « Rindu Lukisan » ou en français « La peinture me manque ». En plus de la fréquence de 3325 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. La rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur Bantimurung, rejoignant le parc du patrimoine de l'ASEAN. Le parc national Bantimurung Bulu Saraung, ou abrégé en parc national Babul, est situé Orejans Maros e Pangka Jene Kepulauan Sua Pangkep a Sulawesi Sud. La superficie de ce parc national est d'environ 43 750 hectares. Le parc national Bantimurung Bulu Saraung présente une variété d'unicité, à savoir carse, grotte avec de belles stalactites et stalagmites, et le plus connu est le papillon. Bantimurung, par Alfred Russel Wallis, a été surnommé le royaume du papillon. Ce parc national est l'une des destinations touristiques qui présente le tourisme de nature sous la forme de collines calcaires, escarpées à la végétation tropicale, de chutes d'eau et de grottes servant d'habitat à diverses espèces. Récemment, le parc national Bantimurung a été désigné parc du patrimoine de l'ASEAN. Le chef du bureau du parc national Bantimurung Bulu Saraung, Yusak Mangetan, a accepté la déclaration du parc du patrimoine de l'ASEAN lors de la 6e conférence sur le parc du patrimoine de l'ASEAN qui s'est tenue au Laos du 21 au 25 octobre 2019. Le directeur exécutif du Centre pour la biodiversité de l'ASEAN, M. Teresa Mundita Eslim, à la tête du parc national Babul, Yusak Mangetan, qui était accompagné de Nur Hidayah, une communauté locale du village Patanyamang, à Maros. Lors de la 6e conférence du parc du patrimoine de l'ASEAN, Yusak a également eu l'occasion de présenter des documents lors de l'une des sessions du séminaire sur le thème écotourisme, affaires et conservation. Dans l'autre session, une nuit culturelle a également eu lieu au Grand Hôtel Champasak au Laos en présentant les vêtements et la culture traditionnelle de chaque pays. À la fin de la session, les nouveaux membres du parc du patrimoine de l'ASEAN ont reçu une charte de déclaration, y compris le parc national Bantimurung Bulu Saraung. Cette charte officialise également l'adhésion du parc national Bantimurung Bulu Saraung au parc du patrimoine de l'ASEAN. Auparavant, 4 parcs nationaux en Indonésie figuraient sur la liste des parcs du patrimoine de l'ASEAN. Le parc national du Mont Leuser, parc national Kerinci, parc national Lawrence et parc national Waikambas. Le parc national Lawrence porte même le titre de site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Yang sebenarnya kau mau, agar aku bisa melanjutkan hidupku. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku? Jika kau butuh, katakan butuh. Jika kau cinta, katakan cinta. Katakan padaku apa yang harus ku buat, biar kau bahagia dan aku juga bahagia. Perasaanku mengatakan kan ada pisah, tapi mengapa kau menarik ulur hatiku? Butuh, katakan butuh.
Voilà la chanson intitulée « Katakan yang sebenarnya » ou en français « Dites la vérité » chantée par Dewi. Nous continuons notre programme avec les informations musicales et cette fois-ci, je vais vous donner la chanson de Kroncong.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde, toujours avec moi Dewi dans le magazine musical. Cette fois-ci, je vais vous présenter une chanson de Kroncong intitulée Pulau Jawa ou en français l'île de Java. L'île de Java est l'une des 5 plus grandes îles de l'Indonésie. Sur cette île se trouve la capitale de l'État indonésien, Jakarta. Le poème dans cette chanson décrit l'emplacement stratégique de l'île de Java et sa richesse culturelle et des gens sympathiques qui vivent en harmonie. Voilà l'île de Java qui est décrite dans la chanson de Kroncong intitulée Pulau Jawa qui signifie l'île de Java. Maintenant, écoutons ensemble la chanson de Keksi Mulyani dont le titre est Pulau Jawa ou en français l'île de Java. Bonne écoute!
Oh,
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.